Sam Travail, la chronique où le travail se raconte et se comprend.
Et si votre boulot racontait l'histoire d'un monde qui change ? Bienvenue dans la chronique de Sam Travail, un espace où les récits des travailleurs et des travailleuses deviennent des miroirs de nos mutations collectives. Pendant 15 minutes, deux fois par mois, on entre dans le vécu du travail. Je vous livre des récits que j'ai collectés, un peu de théorie pour éclairer tout ça, et je vous propose d'écouter, de comprendre et peut-être parfois de vous reconnaître dans ces histoires où le quotidien du travail croise les grandes transformations de notre époque. Aujourd'hui, je vais commencer à vous raconter le parcours d'Agnès. Elle habite en région parisienne et elle commence son récit à une époque où elle est cadre en charge de développement numérique dans une grosse organisation. J'étais dans une structure dans laquelle on m'avait confié le développement et le déploiement d'un très gros outil métier pour un réseau de 200 associations. Tout le monde s'était vautré sur ce type de projet dans les réseaux similaires. Enfin, c'était vraiment un truc avec un enjeu politique hyper important. Et donc, on m'avait confié ça. Et en fait, ça a rencontré plutôt un franc succès. Et au final, ça a généré un peu des appétits d'enjeux personnels de bénévoles. Dans le conseil d'administration, il y avait vraiment des envies de certains de récupérer ce dossier une fois que c'était bien lancé et que ça réussissait. Et du coup, il y a eu de plus en plus de pression au-dessus de moi. Et une pression qui n'était en fait pas d'équerre avec ce qu'on attendait de moi, parce que les objectifs, je les remplissais. Un jour, je devais intervenir lors d'une réunion du conseil d'administration et j'ai senti que j'allais au casse-pipe. Le matin, j'ai dit à mon mari « Bon, là, je vais à l'échafaud. » Mais en même temps, je ne savais pas trop, j'étais assez confiante dans mon boulot. J'étais confiante dans plein de choses, dans la loyauté, dans tout un tas de trucs comme ça. Donc j'y suis allée, en bon petit soldat, on va dire. Et je me suis fait démonter. On me parlait de choses et on me disait « Comment vous expliquez ça ? Et comment vous pouvez justifier ça ?» Bah, en fait, je peux l'expliquer, mais je peux rien y faire, ça relève pas de mes missions. Et en fait, ça a été vraiment un déchaînement. À tel point que mes collègues qui étaient là, à côté de moi, ils m'ont dit mais c'est ton procès, là. J'ai dit, j'ai l'impression, sauf que je comprends pas ce qu'on me reproche. Je suis sortie de là, j'ai pris mon dossier et je l'ai posé sur le bureau de la direction générale et je suis partie. J'ai appelé ma psy qui m'a arrêtée dès le lendemain. Alors ça, moi, c'est ce que j'appelle le burn-out, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais en grosse pression et tout d'un coup, il y a eu un effondrement. Enfin, ce qu'on ressent comme un effondrement par rapport aux attentes, alors que je répondais vraiment aux attentes. J'étais quelqu'un de très engagé, quelqu'un qui croit, enfin tous les trucs qu'on retrouve chez les personnes victimes de burn-out. Et pendant ce temps-là, il se disait dans la boîte que j'étais quelqu'un de fragile, que c'est pour ça que j'étais en arrêt. Que c'était pas à cause de l'organisation, mais que c'était moi qui étais fragile. Parce qu'à cette époque, tout le monde savait que j'allais régulièrement voir une psy. Mais parce que je l'assumais, parce que je pensais que c'était important. Donc je le revendiquais. Un peu presque pour dire aux gens « Mais c'est pas grave, on peut être tout à fait bien dans ses baskets, au contraire. Et c'est justement peut-être parce que je vois une psy régulièrement. » Mais en fait, ça m'a mis une étiquette de quelqu'un de fragile. J'étais en arrêt pendant 3 mois.
Oh,
En 10 ans, les arrêts maladie ont augmenté de 30% en France. Face à ce phénomène, on pourrait, logiquement, s'attendre à ce que le pouvoir politique constate la présence d'un vrai problème de santé publique, qui pourrait s'expliquer par une augmentation des besoins dans de nombreux domaines. On peut parler ainsi de l'augmentation des pathologies psychiques, avec 4 personnes sur 10 qui ont eu des symptômes dépressifs ou anxieux, 1 personne sur 10 qui a eu des pensées suicidaires. On peut aussi parler des maladies chroniques, diabète, cancer, hypertension, qui ont augmenté et concernent 12 millions de Français. Les arrêts maladie permettent aux personnes qui souffrent de ces affections chroniques de rester en situation de travail. On pourrait aussi parler de la dégradation des conditions de travail. Eh bien, ce n'est pas du tout cette explication qui prédomine. La semaine dernière, j'écoutais une radio du service public et entre 2 émissions, un spot de l'assurance maladie. Un monsieur dit d'un air léger « Tu sais, je crois que je vais me faire arrêter. »« Bah pourquoi ?» lui dit un autre. « Parce que j'ai envie de me faire arrêter. » À la manière d'une fable de La Fontaine, le spot se conclut sur la morale suivante. Notre système de soins, c'est à chacun d'en prendre soin. Qu'est-ce qui est sous-tendu derrière ça? Eh bien que non, il n'y a pas de problème de santé publique, il y a un problème d'abus. Et chaque année, au moment du vote du budget, on pointe, hommes politiques comme médias, le coût de ces arrêts pour la collectivité. Et chaque année, on parle de lutter contre les médecins qui prescrivent trop. Et on lance donc des campagnes de contrôle auprès des médecins qualifiés de surprescripteurs. Et chaque année, on parle d'augmenter les jours de carence. Sous-entendu, si les personnes sont en arrêt maladie, c'est parce qu'il y a de l'abus, parce que c'est trop facile et que ça rapporte trop. Et pourtant, les études sur le sujet démontrent que ce qui coûte cher, ce sont les arrêts de longue durée. Donc sans aucun lien avec la notion de jour de carence. Et qu'à l'inverse, plus on tarde à prescrire un arrêt maladie, plus cela risque d'entraîner des arrêts de longue durée par la suite. En tout état de cause, la personne en arrêt est culpabilisée. Au mieux, elle est faible et défaillante. Au pire, c'est une profiteuse du système de santé qu'elle met en péril. Une chose dont on ne parle jamais, c'est la question du non-recours au droit. Dans le domaine de la santé au travail, le non-recours au droit se nomme le présentéisme, c'est-à-dire le fait pour une personne malade de ne pas prendre d'arrêt maladie. Soit elle demande au médecin de ne pas l'arrêter, soit elle ne prend pas l'arrêt prescrit. Une étude montre d'ailleurs que 1 jour sur 4 d'arrêt maladie prescrit n'est pas pris, ce qui représente quand même 25%. De quoi parle ce non-recours? Eh bien, il y a plusieurs causes à ce qu'on nomme le présentéisme. Il y a la perte de revenus, du fait des jours de carence, du fait d'un traitement inférieur au salaire en fonction de l'ancienneté et de la convention collective. C'est aussi la crainte que son contrat ne soit pas renouvelé pour les personnes en CDD ou en intérim. Et puis, il y a l'impact sur l'image professionnelle. C'est la peur de passer pour quelqu'un de faible. Quelqu'un qui laisse tomber ses collègues, qui n'est pas fiable, la peur de s'exclure. Très souvent, au sein des ateliers SAM Travail, on voit combien il est difficile pour les personnes d'accepter l'arrêt maladie. On entend souvent « mais je peux pas m'arrêter » ou « non mais moi je suis pas comme ça, j'ai jamais été en arrêt maladie toute ma carrière ». Parmi les valeurs transmises par notre éducation vient très souvent celle que dans le travail, il faut savoir tenir bon, encaisser, tenir coûte que coûte. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than slow-growing fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. Shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. We build all those bridges to watch.
and thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking its last couple of talks, and there won't be a party with weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out love. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out love. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothings left behind. Deeper down, we're all going down, down, deeper down, yeah. We are all plunging straight towards our own decline. Without noticing, we slide down, deeper down. The shadow grows without ever slowing down. We are heading straight into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter.
Je voudrais parler d'un article écrit par Eva Blanc-André, paru dans Libération, qui se nomme « Je me mets en arrêt de travail, glissement sémantique, glissement de responsabilité ». Cet article y pointe la question de la responsabilisation de l'individu, avec l'utilisation du terme « se mettre en arrêt maladie ». L'auteur pose la question de ce que signifie le développement de cette expression. Que dit-elle des salariés, mais surtout des organisations ? Cette phrase est une tournure active, presque volontaire, nous dit-elle, alors que dans les faits, ce sont les médecins qui arrêtent la personne. Le salarié est ainsi renvoyé à sa propre responsabilité. Ce renversement individualise ce qui est souvent le symptôme d'un dysfonctionnement collectif. Ce basculement se produit dans un contexte où les formes de régulation collective du travail sont affaiblies. Le dialogue social s'érode, les syndicats sont absents ou marginalisés, la grève devient impraticable pour beaucoup et l'expression des tensions s'individualise, se somatise. L'arrêt de travail, dans ce contexte, devient le dernier recours, le seul levier encore possible pour interrompre une mise au travail insoutenable. Une grève du corps, en quelque sorte. Pas pour revendiquer, juste pour ne pas sombrer. Plus loin, Eva Blanc-André nous dit: il arrive aussi que l'arrêt transforme l'image du salarié au sein de son organisation. Le salarié arrêté, comme le salarié gréviste, devient alors celui qui casse la cadence, celui qui perturbe le système, même sans le vouloir, même sans le dire. Elle conclut : alors non, les salariés ne se mettent pas en arrêt. Ils tiennent le plus longtemps possible. Ils luttent contre leur propre perception d'eux-mêmes, contre la peur d'être faible contre les conséquences possibles. C'est peut-être là qu'il faut s'arrêter un instant sur la puissance contenue dans cette phrase, souvent lancée à demi-mot, parfois dans un soupir. Comme une manière de dire que le seuil est franchi, que l'organisation n'a pas su entendre à temps. Ce n'est pas une revendication, pas encore une rupture. C'est le dernier signal envoyé avant le silence du corps. Et si cette phrase circule autant aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'elle dit, en creux, l'épuisement des dispositifs collectifs, l'absence d'alternatives et la nécessité de réinventer des espaces où l'on peut s'arrêter avant de tomber. Le discours responsabilisant les individus est à l'œuvre exactement de la même manière que dans le champ de l'aide sociale, où on va pointer les soi-disant abus des bénéficiaires, du RSA par exemple, qui mettraient en danger le système, plutôt que de regarder le non-recours au droit. Non-recours estimé selon une étude de la DRES de 2022 à 50% pour le minimum vieillesse, 34% pour le RSA et 30% pour le chômage. Plutôt que lutter contre la pauvreté, on va lutter contre les pauvres. Dans le domaine de la santé au travail, de la même manière, plutôt que d'analyser l'origine des arrêts maladie, on va brandir la notion d'abus. Et de manière très surprenante, cette hypothèse de l'abus est intériorisée par une majorité de personnes qui vont facilement dire « oui, c'est vrai, quand même, il y a de l'abus ». Et vous, quel est votre rapport à l'arrêt maladie ? Êtes-vous à l'aise avec l'idée d'être en arrêt maladie lorsque vous n'êtes pas en capacité de travailler sereinement, quelle qu'en soit la cause, une très grosse fatigue, des douleurs, une boule au ventre pour aller au travail? Comment vous sentez-vous avec ça? Avec ou sans sentiment de culpabilité? Lors de la prochaine chronique, nous retrouverons Agnès, qui va revenir au travail après 3 mois d'arrêt maladie. Si vous aussi, vous avez envie de confier à l'association SAM Travail un épisode de votre vécu professionnel, écrivez-nous à contact@frequence7.net. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle chronique. Et d'ici là, ne vous laissez pas trop travailler par le travail.